en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 12 janvier 2009, le scientifique géochimiste Claude Allègre, membre de l'Académie des sciences, ancien ministre socialiste de l'Éducation nationale sous le gouvernement de Lionel Jospin, s'est exprimé en séance devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Canal Academy vous propose d'écouter sa communication. En effet, sous la présidence de Jean-Claude Casanova, pour l'année 2009, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques se réuniront autour du thème « Université, sciences et recherche dans la France d'aujourd'hui » pour leur séance hebdomadaire habituelle. Le ministre Claude Allègre a inauguré le 12 janvier le cycle des communications 2009 en livrant sa vision de l'université française. Retrouvons Claude Allègre en séance.
J'ai prévu de vous parler du problème universitaire tel que je le vois aujourd'hui. J'ai passé 7 années à m'occuper des universités et je dirais presque j'ai passé plus de temps quand j'étais conseiller spécial du ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, qui m'avait laissé toute latitude à m'occuper des universités, que lorsque j'ai été moi-même ministre, parce que je me suis laissé manger par les problèmes de l'enseignement secondaire qui m'ont pris beaucoup de temps et m'ont procuré beaucoup de déplaisir. Donc, c'est un sujet sur lequel j'ai eu le temps et beaucoup de temps de réfléchir. Je vais faire mon exposé en 3 parties. Je m'excuse pour les tenants des plans de parti. En vous parlant d'abord, parce que je trouve que c'est adapté, rapidement, un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de politique qui recadreront. Ensuite, je rappellerai quels sont les faits incontournables aujourd'hui de l'université française. Et puis, dans la dernière partie, j'essaierai de lancer des débats sur 5 thèmes qui me paraissent essentiels. L'histoire. Alors d'abord, je crois que ce qui domine tout dans l'histoire de l'université européenne, c'est l'idée que c'est une université faite par les professeurs, pour les professeurs. Puisque, comme vous le savez, dans la première création universitaire, il n'y avait pas d'élèves. C'était les professeurs qui discutaient entre eux. Ensuite, ils ont admis quelques disciples, autrement dit, qui étaient faits pour devenir eux-mêmes professeurs. Ça, c'est quelque chose qui est absolument déterminant, car de l'autre côté de l'Atlantique, l'université n'a pas été faite par les professeurs, elle a été faite pour les élèves, et les professeurs se sont organisés pour satisfaire les élèves. Et cette dichotomie est absolument fondamentale. On ne peut pas comprendre les difficultés qu'il y a à réformer le système si on n'a pas compris cette chose-là. Ça sera un point majeur. Et lorsque, en France, on a cherché à fabriquer autre chose, eh bien, on a cherché à fabriquer quelque chose qui était dédié aux élèves, et ça s'appelle les grandes écoles. Et vous avez, dans le vocabulaire, qui est toujours très indicatif, on vous dit, c'est simple, on est professeur à la Sorbonne, ancien élève de l'école polytechnique. Ça vous donne la dissymétrie. L'une qui est une université de professeurs et l'autre quelque chose pour les élèves. Donc ça va dominer toutes les choses. Et cet enseignement supérieur français, il va se caractériser, l'université, et je suis universitaire depuis 50 ans, c'est une université corporatiste de privilèges et d'un conservatisme intellectuel exagéré. Car il faut savoir, si la France a été obligée de créer le Collège de France, les grandes écoles, l'école des sciences politiques, le muséum d'histoire naturelle, c'est à chaque fois parce que l'université ne voulait pas enseigner le grec, les sciences naturelles, les sciences de l'ingénieur, etc. Et cette résistance, elle continue à exister. Lorsque j'ai créé les licences professionnelles, par exemple, il y a eu un article qui a fait une pleine page du Monde d'un soi-disant grand sociologue français pour expliquer que c'était l'abomination de l'abomination de préparer des étudiants à avoir un métier, c'était de les vendre au patronat. Donc, il faut bien comprendre ce point, il reste un point de résistance absolument énorme. Deuxièmement, la géographie. La géographie, elle se marque de 2 manières. Dans le nouveau monde, comme l'université est faite pour l'étudiant, c'est l'étudiant qui paye l'université, quitte à ce que la puissance publique lui donne des bourses pour cela. Mais le financement de l'université est assuré par le paiement de droits des étudiants. De ce côté-là de l'Europe, c'est le welfare state, et par conséquent, c'est l'État qui finance l'université, qui est gratuite pour ceux qui en sont capables. C'est ça le cadre général. On verra qu'on sort un petit peu aujourd'hui de ce cadre. Deuxième différence, dans le Nouveau Monde, la caractéristique des universités, c'est la diversité. Lorsque vous regardez, j'ai enseigné assez longtemps aux États-Unis, l'admission, prenons à Harvard et à MIT, qui sont à deux stations de métro, ça n'a rien à voir. Les étudiants qui sont admis dans l'une et l'autre, ne sont, alors que tout le monde est candidat à peu près partout, ça n'a rien à voir. Chaque université a sa personnalité, chaque université a son cursus, chaque université a son style. De l'autre côté de l'Atlantique, et notamment en France, c'est l'uniformité, avec le principe du faux égalitarisme. Tout le monde doit être pareil. Tout le monde, on doit enseigner la même chose partout. Et le soi-disant égalité, un étudiant doit pouvoir aller dans n'importe quelle université, quel que soit son niveau, et recevoir la même formation. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, sans arrêt, constamment, sur ce problème, et qui conduit à une vision qui est une vision fausse sur ce qu'est l'excellence, qui est un point dominant. Alors, sur le plan politique, à quoi sert l'université? Pendant longtemps, et là encore, l'université et recherche ont été liées depuis la formation de l'université. Jacques Le Goff, dans son livre « Les intellectuels au Moyen-Âge », parle très très bien de cela en disant « L'université, elle doit créer le savoir et enseigner le savoir ». C'est resté aux États-Unis la règle. L'Europe, à la suite surtout de l'expérience allemande et de l'Institut Wilhelm, qui est devenu le Max Planck aujourd'hui, a pris l'habitude de dissocier, sauf en Grande-Bretagne, l'enseignement et la recherche et de créer des organismes de recherche distincts. Alors, le trajet intellectuel a été simple en ce qui concerne la France. C'était l'Allemagne, et depuis la guerre de 70, elle était montrée comme un exemple. Mais en fait, les Français, ils sont passés le petit détour par l'URSS. C'est à la suite d'une visite de Jean Perrin et de la famille Joliot en URSS qu'on est revenu et qu'on a créé le CNRS, qui s'appelait la Caisse pour la recherche. Donc on a dissocié recherche et université. Et puis, les choses ont continué, c'est-à-dire que l'université, création du savoir, diffusion du savoir, outre-Atlantique, l'université est devenue création de la richesse. Et aujourd'hui, une université américaine, ce n'est pas recherche-enseignement, c'est recherche-enseignement-création d'entreprise. Il n'y a pas d'université américaine aujourd'hui qui n'ait pas ce triptyque, c'est-à-dire de créer ce qu'ils appellent des start-up dans tous les coins, partout. Et donc l'université, et là je voudrais vous dire une chose, la base de la prospérité de l'Amérique, c'est son université. La base de sa prospérité, tout ce que vous voyez, tout ce que ça s'appelle Apple, que ça s'appelle Microsoft, tout a été fait dans l'environnement de l'université. Et l'université est le moteur économique de l'Amérique et le moteur de l'innovation. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Vous savez que j'ai fait passer la loi dite sur l'innovation, et je rends grâce à notre confrère, Monsieur Poncelet, qui a arrêté la pendule pour permettre à cette loi de passer le dernier jour de l'année, car avant cette loi, il était interdit pour un professeur d'université d'être consultant dans une entreprise. Alors, il y en avait qui le faisaient, mais c'était contre la loi. Il était interdit de faire des laboratoires mixtes université-entreprise. Il était interdit de recevoir des contrats d'une entreprise pour faire marcher un laboratoire, etc., etc. Alors, là encore, des tas de gens faisaient, mais c'était contre la loi. Et donc, il a fallu attendre 1919, pour faire passer cette loi. Ceci, c'est simplement pour montrer la résistance. Et là encore, il y a eu des campagnes considérables disant que je vendais l'université au patronat. Certains allant même dire que j'étais payé par le patronat pour cela. Donc, ce fonds, il existe encore. Il n'existe plus du tout en sciences, mais il existe encore dans certaines disciplines, j'y reviendrai. Quel est le deuxième partie, avant d'aborder la partie la plus importante, qui est la troisième? Quelles sont les caractéristiques, si on a en quelques mots, dire quel est l'enseignement supérieur français? D'abord, premièrement, la croissance. Personne ne réalise ça. Et je vous donne des chiffres. En 1950, il y avait 200 000 élèves dans l'enseignement supérieur français. Il y en a 2 millions. Aucun service de l'État n'a bénéficié n'a eu une telle croissance. Mais le retour de ça et cette croissance, contrairement à ce qu'on peut dire, le taux d'encadrement professeur-élève ne s'est pas dégradé. Mais ce qui s'est dégradé, c'est le salaire des professeurs. Et aujourd'hui, les universitaires français sont parmi les plus mal payés actuellement au monde. Ce qui explique le fait que vous n'avez plus beaucoup de jeunes qui veulent rester professeurs d'université en France. Et s'il y a une priorité, et je l'ai dit plusieurs fois au président de la République, la première des choses, c'est de revaloriser les professeurs d'université, sinon il n'y en aura plus de grande qualité. Ça, c'est la deuxième chose, la dissymétrie grandes écoles, université. 30% du budget est consacré aux grandes écoles pour 4% d'élèves. Donc, à partir de ce moment-là, on voit comment le rapprochement des deux, que j'ai commencé quand j'étais ministre, en particulier en fabriquant les masters, etc., communs, une architecture commune au cours de l'harmonisation européenne, mais comment il y a une tension extrême entre les deux. Or, ce rapprochement grandes écoles-universités, il est indispensable si nous voulons avoir une université compétitive sur le plan international. On ne peut pas continuer à avoir deux systèmes qui sont séparés. Et puis, le troisième point, c'est la recherche qui est séparée de l'enseignement. Par conséquent, dans les actions à entreprendre, il y a intégré la recherche et, plus que la recherche, la création, le moteur économique dans l'université. Il y a de ramener grandes écoles et universités dans un lot commun, ce qui n'est pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, si difficile. Je vais vous prendre un exemple. À MIT, le département d'Electrical Engineering, il est complètement autonome, il recrute qui il veut. La Sloan School de business, elle est autonome, elle recrute qu'elle veut. À Harvard, la business school, elle recrute comme elle veut. Donc, en fait, ils ont une autonomie qui est aussi grande que les grandes écoles. Donc, on pourrait très bien concevoir des ensembles où on met les grandes écoles avec les universités, où les grandes écoles gardent leurs spécificités. Ça, c'est... Mais elles seraient dans un même système, ce qui permettrait une plus grande fluidité. Donc, le système n'est pas aussi impossible. Mais l'impossibilité, elle est psychologique. À cause de cette différence, vous ne pouvez pas marier facilement les gens du 93 avec les gens du 16e. C'est difficile, ça. Et là, vous avez ce problème-là. Alors, maintenant, je prendrai 5 thèmes sur lesquels je vais poser des questions, faire des remarques, et qui pourront éventuellement vous servir, puisque vous avez choisi ce thème cette année, qui est un thème important. Je vais vous parler de l'autonomie, je vais vous parler de la taille des universités, je vais vous parler de la diversité, je vais vous parler de la formation et de la culture générale, et je vous parlerai de l'excellence. Alors, l'autonomie, d'abord. Tout le monde, l'autonomie, c'est une tarte à la crème. Et là, on nous dit que dans la nouvelle loi, on a rendu les universités autonomes. Alors, il faut comprendre une chose. Dans un pays démocratique, l'université n'appartient pas aux universitaires. On n'a toujours pas compris ça. L'université, elle appartient à la nation. Et l'université, elle doit avoir une citoyenneté. Donc, de deux choses l'une. Ou la citoyenneté est donnée par le ministre. Et donc, l'université n'est pas autonome. Et si elle n'est pas donnée par le ministre, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle aux États-Unis un board of trustees, qui n'est pas fabriqué par des professeurs, qui est fabriqué par des gens représentant le pays et qui a la tutelle ultime de l'université. On vient de faire une loi dans laquelle on a donné l'autonomie en restant dans le corporatisme universitaire. Et on voit dès maintenant donner du pouvoir à un président sans contrôle extérieur comment les choses risquent de se passer. On le voit déjà. Donc, autonomie, oui, autonomie intellectuelle de l'université, autonomie politique, mais une citoyenneté. L'université doit avoir une citoyenneté. Elle doit être liée au pays. Elle ne peut pas être la poste au postier. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, la taille. Je suis inquiet quand je vois qu'on est en train de me dire qu'on fusionne les universités de Bordeaux, on fusionne les universités de Toulouse, etc. Donc on est en train de fabriquer des universités de 100 000 étudiants. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ici, je vais vous donner quelques chiffres. Le Massachusetts Institute of Technology, qui est donné comme exemple, effectivement, qui est l'une des moteurs, en tous les cas, de l'essor du Massachusetts, c'est 8 000 étudiants, 8 000. Le California Institute of Technology, c'est 4 000 étudiants. Harvard, c'est 11 000 étudiants. Et la plus grosse université dans les grandes universités américaines, c'est Berkeley, 23 000 étudiants. Donc, quand on nous dit on va faire des universités, je lis dans les journaux, de taille compétitive, cette taille, elle ne va pas marcher. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que vous ne trouverez pas un nombre de professeurs décidés à vivre comme des spartiates en travaillant 17 heures par jour pour arriver à être de niveau international dans les divers domaines de la recherche. Mais deuxièmement, surtout parce qu'une université de 100 000 étudiants, elle va s'occuper essentiellement du premier cycle et de la gestion de leurs élèves. Par conséquent, ce n'est pas le bon système. Ce système du gigantisme n'est pas un bon système. Donc, il faut trouver autre chose. Fédération, j'en sais rien. C'est pour ça que l'idée, par exemple, de Jacques Attali de dire « faisons passer l'école polytechnique à 4 000 élèves et déclarons que c'est une université », c'est une idée. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une idée. Mais au moins, ça va dans un sens qui est un sens plus conforme aux choses. Troisièmement, diversité. Alors, ça, c'est la plaie française. Pourquoi faut-il qu'il y ait les mêmes règles, les mêmes cursus, les mêmes types d'examens pour le droit, la médecine, les lettres, les sciences, etc. Ça, c'est complètement absurde. Ça n'a rien à voir. Nous avons un problème majeur en sciences. Le droit, nous avons un problème majeur en médecine sur le recrutement des étudiants, parce qu'on recrute des étudiants sur des QCM à 18 ans, ce qui n'a rien à voir avec le métier de médecin. Nous avons des problèmes en sciences, le premier problème, c'est la désaffection des élèves pour les sciences. Chacun doit avoir des choses originales. Et il n'est pas nécessaire de faire un règlement le même juridiquement pour tout le monde. Ça va être quelque chose de très difficile, car l'administration française, tout est carré et tout doit être la même chose. Donc, il faut casser cette chose-là par rapport aux différentes disciplines. Et je vais vous donner sur la formation pour vous dire que ce n'est pas simplement une vision de scientifique fermée. Par exemple, les études de lettres sont aujourd'hui beaucoup plus adaptées au monde moderne que les études de sciences. Pourquoi ? Parce que les études de lettres, ils ont compris en quatrième année, ils font commencer un travail personnel. Alors que nous, et j'y reviendrai tout à l'heure, là, le problème numéro un et notre problème sur notre déficit en innovation, c'est qu'on abrutit les élèves avec des cours. Ils apprennent ce qu'ont fait les autres, ils n'apprennent pas à créer eux-mêmes. Et donc, par exemple, là, on a un exemple qui est intéressant, mais on ne peut pas l'adapter comme tel, ce que font les littéraires. Les juristes, ils ont un autre système, qui est un bon système. Eux, ils ont trouvé la solution des problèmes de sélection. Ils admettent tout le monde. En première année, ils en collent 70%. Et après, les gens font leurs études normalement. Sauf qu'on leur a collé maintenant de faire passer des examens tout le long de l'année. Donc, diversité. Faire rentrer l'idée de diversité. Ça, c'est une des choses. Et là, je voudrais insister sur quelque chose qui pourrait d'ailleurs être un sujet de colloque dans une académie comme la vôtre, qui est l'égalité n'existe que dans la diversité. Il n'y a pas de discipline noble et de discipline secondaire. Il y a tout le monde peut prétendre à l'excellence, mais pas à l'excellence partout. Par conséquent, je reviendrai sur ce sujet, c'est quelque chose d'essentiel. Quatrième sujet, formation générale, culture générale ou formation professionnelle. Voilà le débat français typique et typiquement idiot. Bien sûr qu'il faut que l'université donne à la fois une culture générale et des bases d'une formation professionnelle. Et d'ailleurs, que font les juristes et que font les médecins depuis des siècles? Ils donnent une culture générale et une formation professionnelle. C'est bien clair que c'est ce qu'il faut faire. Par conséquent, il n'y a pas besoin de continuer à se battre sur ces cursus. Il faut que les cursus soient à la fois des cursus... Je prends un exemple d'une décision qui me paraît personnellement... Il y a des gens plus qualifiés ici pour le dire... Mais cette idée d'avoir découpé la gestion et l'économie ne me paraît pas aller dans le sens du progrès. Résultat, on a une usine à chômeurs d'un côté et de l'autre côté, des gens qui ne sont peut-être pas suffisamment formés aux grandes questions. Donc, et dans ce problème, culture générale et formation, il y a un mot-clé, innovation. Il faut arrêter... Moi, je viens de faire une mission pour le président de la République sur l'innovation et j'ai pu faire un tour de la situation. Il y a un déficit considérable d'innovation dans les grandes entreprises françaises, énorme, et beaucoup moins dans les petites et moyennes entreprises. Mais le problème, c'est que nos élèves, y compris les meilleurs, ne sont pas formés à l'innovation. Nous avons besoin que les gens qui sont diplômés des plus grandes écoles, et je n'ai pas besoin de les citer, ils aient à un moment fait une œuvre personnelle avant d'obtenir leur diplôme. Il faut qu'ils aient fait quelque chose eux-mêmes, une thèse. Et il faut savoir quand même, le nouveau président des États-Unis, il a un PhD. Ben oui. Et Jimmy Carter, il avait un PhD. Et les grands présidents des grandes sociétés américaines, ils ont fait un PhD. Ils savent ce que c'est que l'innovation. Donc, nous avons absolument besoin de réorienter. Et là, les professeurs ont une lourde responsabilité. Parce que les professeurs, ils font cours en pensant que ce qui est important, c'est ce qu'ils vont dire. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que l'élève va retenir et la manière dont il va le retenir. Et par conséquent, vous savez l'enseignement que donne Cambridge. Cambridge donne un tiers de son enseignement en cours. Et à l'examen, il faut se débrouiller pour faire les deux tiers, avec du tutorat, bien sûr, mais en allant chercher dans des bouquins. Il faut former les élèves, il faut supprimer une grande quantité de cours, il faut rapprocher l'enseignement du tutorat dans l'enseignement supérieur et le rapprocher de la recherche. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le mot d'excellence. On parle beaucoup, on dit il y a des universités d'excellence, il y a des... Alors il faut comprendre, chers confrères, que l'Amérique ne fonctionne pas grâce à Harvard, MIT, Chicago, Columbia, Princeton, etc. uniquement. Elle fonctionne parmi, il y a 900 universités d'abord, et il faut comprendre qu'il y en a 300 de très bon niveau. Mais de très bon niveau avec des objectifs différents. Si je vous dis l'université de Baton Rouge, vous allez ouvrir les yeux, vous allez dire, qu'est-ce que c'est, Baton Rouge ? Bon, l'université de Louisiane à Baton Rouge. Ben oui, mais l'université de Louisiane à Baton Rouge, c'est la meilleure université du monde pour former des spécialistes de pétrole. Ils forment des économistes pétroliers, des ingénieurs pétroliers, des géologues pétroliers, etc. Et pour y rentrer, je vous garantis, c'est difficile, mais vous êtes assuré d'avoir un bon job à la sortie. D'autres universités se spécialisent dans l'électronique, d'autres dans... Et par conséquent... Il faut arrêter de dire « nous voulons fabriquer des universités d'excellence ». Il faut dire « tout le monde doit avoir l'ambition de l'excellence ». Mais tout le monde n'aura pas l'ambition de l'excellence dans le même domaine et partout. Tout le monde, aux États-Unis, tout le monde ne cherche pas à imiter Harvard. Harvard, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait un continuum. Et il faut arrêter de dire « nous voulons... des universités, nous devons avoir des universités type Harvard, qui sont ce que j'appellerais des ténors, beaucoup plus que des universités d'excellence. Il faut que nous ayons des universités qui, dans un certain nombre de secteurs visibles, mais il faut que nous ayons un tissu universitaire. Une des grandes choses qui a été faite dans les réformes qui ont été faites dans le passé a été la création par Pierre Aigrin des IUT. Les IUT ont donné en France... un tissu de techniciens supérieurs dans lequel, récemment dans un colloque à l'Académie des sciences, l'ancien président de Renault nous disait « grâce aux IUT, il y a un continuum de formation entre les ingénieurs et les techniciens ». Et ça, ça a été une très bonne chose. Les IUT ne prétendent pas être Harvard et elles rendent un énorme service aujourd'hui au pays. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez faire. Je voudrais simplement terminer en disant une chose. Il n'est pas possible de construire dans un pays comme la France le système américain, uniquement parce que la France est la France et l'Amérique est l'Amérique. Nous ne descendons pas de ceux qui ont traversé l'Atlantique. L'idée du risque et d'innovation, ce n'est pas une idée qui est l'idée fondamentale. Donc nous devons à la fois chercher à obtenir des objectifs, mais tenir compte de notre histoire des mentalités, de notre histoire réelle, de notre histoire universitaire. Et je trouve que, si je me permets, Monsieur le Président, de vous, si vous allez faire un ouvrage... Mais si vous pouviez faire un ouvrage sur la partie historique des idées concernant comment l'université, comment les réformes se sont faites, etc., je pense que, lisible par l'universitaire de base, qui généralement est totalement inculte en ce qui concerne ce genre de choses, je pense que ça serait très important parce que ça... Je crois que le rôle que vous pouvez jouer, et qui peut être un rôle très important, c'est de faire évoluer les mentalités. C'est ce qui va être les choses les plus difficiles. Car je termine par le point politique. Si nous ne pédalons pas assez vite, je vais vous dire, on va être débordés. Aujourd'hui, lorsque je vois ce qui se développe en Chine ou en Inde, sur le plan universitaire, je pense qu'il y a une urgence extrême à ce que nous développions notre système en ayant des gens de valeur dans comme enseignant et en ayant une université performante, mais qui pense que cette université est faite non pas pour les professeurs, mais pour le pays. Merci.
Vous venez d'entendre Claude Allègre, membre de l'Académie des sciences, devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, le 12 janvier 2009.